Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 25 novembre 2024. Dans quelques instants, je vous présenterai le journal d'information et un commentaire politique. Vous pouvez écouter ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Le leader de la révolution islamique juge insuffisant le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plus de 100 médecins ont été tués à Gaza et au Burkina Faso. Plusieurs terroristes, dont des cadres, ont été éliminés dans deux régions. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a jugé insuffisant le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la guerre, Yoav Gallant. Le mandat d'arrêt de la CPI n'est pas suffisant. La peine de mort doit être émise contre ces criminels, a déclaré l'ayatollah Khamenei lors d'une réunion avec des membres de la force de volontaires populaires iraniens, Basij, ce lundi 25 novembre, à l'occasion de la semaine du Basij. La CPI, basée à La Haye, a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la guerre, déchu, Yoav Gallant, pour leurs crimes de guerre liés au génocide en cours à Gaza. Désormais, les deux criminels risquent d'être arrêtés s'ils mettent les pieds dans l'un des 124 pays signataires du statut de Rome, créant la CPI. Le leader s'est ensuite attardé sur les actes d'agression commis par le régime sioniste dans la bande au Gaza et au Liban pour rappeler judicieusement que certes le bombardement de maisons n'est pas une victoire, mais un crime. L'ennemi n'a pas gagné ses guerres contre Gaza et le Liban et il n'y arrivera jamais, a averti l'ayatollah Khamenei. Le leader de la révolution a noté ensuite que l'idéal souhaité par les États-Unis pour la région est soit la soumission, soit le chaos, mais que la force Basij iranienne a toujours résisté devant les puissances hégémoniques qui tentent de manipuler les croyances nationales. Basiji ne se laisse pas intimider par la propagande américaine et israélienne, a-t-il soutenu, rappelant que certains des scientifiques iraniens éminents qui ont été assassinés par l'ennemi étaient membres de cette force de volontaires populaires. L'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, a créé la force Basij comme rempart contre les menaces, a reconnu l'Ayatollah Khamenei. Le leader a salué ainsi les succès remportés par le Basij dans la lutte contre les complots tramés par les ennemis contre la révolution islamique. Il a ainsi évoqué un accord conclu il y a 15 ans, lorsque les États-Unis ont promis de livrer à l'Iran de l'uranium d'une portée de 20% pour qu'il soit utilisé dans la fabrication de produits radiopharmaceutiques en échange de la prise de la totalité de l'uranium à 3,5% du pays. Les Américains ont triché. Nous avons réalisé qu'ils trichaient. L'accord a été donc annulé, affirmait le leader précisant. Ceux qui ont déjoué le complot diabolique des États-Unis dans l'affaire de l'uranium enrichi à 20%, dont le pays avait besoin, étaient des membres du Basij. Le leader a souligné que le Basij détruirait définitivement le régime sioniste avant de conclure. Le Basij doit se renforcer, s'y étendre et maintenir sa préparation. L'Iran accueillera la semaine prochaine la 28e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de coopération économique, OCE, à Mashhad, ville située dans le nord-est du pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Barahi, a annoncé le dimanche 24 novembre devant la presse que la 28e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCE se tiendrait la semaine prochaine dans la ville sainte de Mashhad. M. Barahi a déclaré que les ministres et les hauts responsables des États membres de l'OCE, les chefs des organisations régionales spécialisées de cette organisation et les secrétaires généraux de certaines organisations économiques multilatérales participeront à cette importante réunion qui sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. L'OCE joue un rôle de premier plan dans le renforcement de la coopération économique entre les pays de la région. Elle est l'un des plus anciens accords de coopération économique entre les pays en développement, ayant à son ordre du jour la promotion du développement économique régional, a-t-il affirmé, ajoutant que la République islamique d'Iran assure la présidence tournante de cette organisation en 2024. La réunion de l'OCE devant se tenir à Mashhad sera la deuxième réunion ministérielle d'une organisation internationale accueillie par l'Iran au cours des 6 derniers mois. En juin 2024, l'Iran a accueilli la 19e réunion du dialogue de coopération asiatique DCA avec la participation de ministres des Affaires étrangères et de hauts fonctionnaires de 33 pays membres. L'Iran a annoncé l'ouverture des négociations cruciales avec la Troïka européenne, France, Allemagne et Royaume-Uni pour examiner des questions régionales, notamment le programme nucléaire iranien ainsi que la guerre en cours en Palestine et au Liban. Dimanche, Ismail Barahi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré que les vice-ministres des Affaires étrangères de l'Iran et des trois pays européens, également connus sous le nom de Troïka, se rencontreraient ce vendredi 29 novembre. Il a réaffirmé la volonté de l'Iran de s'engager dans un dialogue fondé sur la dignité, la sagesse, les intérêts mutuels. Selon Barahi, la prochaine réunion avec les trois pays européens sera la continuation des discussions tenues avec le trio européen en septembre 2024 en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York. Les discussions aborderont une multitude de questions régionales et internationales, avec un accent particulier sur les sujets liés à la Palestine, au Liban et aux préoccupations iraniennes dans le domaine du nucléaire civil, a-t-il précisé. Les unités spéciales de la force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, et les divisions d'élite des forces armées azerbaïdjanaises ont lancé un exercice militaire conjoint à grande échelle pour renforcer la coopération en matière de sécurité et renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme entre les deux nations. L'exercice de 4 jours, baptisé « Exercice conjoint Arras », a débuté dimanche dans les régions montagneuses du comté d'Aslan 12, dans la province d'Ardabil, au nord-ouest de l'Iran. des unités de réaction rapide des forces terrestres du CGRI et de l'armée de la République d'Azerbaïdjan participent à cet exercice de collaboration. Les principaux objectifs de cet exercice militaire conjoint sont le renforcement des liens militaires entre les deux nations musulmanes voisines et la poursuite de leurs efforts conjoints pour lutter contre les organisations terroristes. Un autre aspect crucial de l'exercice concerne la protection des frontières communes des deux nations et le renforcement de la coopération en matière de défense au niveau tactique et opérationnel. Cette collaboration vise également à renforcer les capacités militaires et s'inscrit dans le cadre des accords conclus entre les deux parties pour promouvoir leurs intérêts mutuels. Les forces israéliennes visent délibérément les hôpitaux de la bande de Gaza dans le cadre d'une stratégie visant à affaiblir le système de santé déjà en crise de cette région. Le communiqué diffusé dimanche 24 novembre souligne que les installations médicales ont été explicitement désignés comme cibles par les militaires israéliens, ce qui soulève de vives inquiétudes quant à la protection des civils et des infrastructures essentielles en temps de conflit. Le bureau des médias de Gaza a exprimé son indignation face aux actes criminels perpétrés par le régime sioniste, dénonçant les bombardements incessants et les attaques ciblées du régime sioniste contre les infrastructures de santé. Ces agressions ont causé la mort de nombreux membres du personnel médical, parmi lesquels des médecins et des infirmières qui se trouvaient en première ligne pour soigner les blessés. Depuis le début des hostilités en octobre 2023, plus de 1 000 professionnels de la santé ont perdu la vie en raison des actions israéliennes, tandis que plus de 310 autres ont été arrêtés, soumis à des tortures, exécutés dans des prisons, a déclaré le bureau des médias de Gaza. Les forces du régime ont également entravé l'accès à des nourritures médicales essentielles, à des équipes médicales et à des centaines de chirurgiens qui souhaitaient se rendre à Gaza. Au Burkina Faso, plusieurs terroristes, dont des cadres, ont été neutralisés jeudi par l'armée burkinabé dans les régions du Sahel et de l'Est du pays, annoncé dimanche la presse locale. L'armée burkinabé, citée par l'agence d'information du Burkina AIB, a déclaré dimanche que les opérations offensives avaient permis de neutraliser jeudi des terroristes, dont des cadres en pleine réunion à Pobimangaro, localité dans la région du Sahel. Le même jour, aux environs de 17 heures, plusieurs autres terroristes ont été tués dans des frappes de l'armée aérienne dans le village de Doualigou, situé dans la région de l'Est, selon l'AIB. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. Voilà ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Soutien apporté aux femmes palestiniennes à l'approche de la Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors que le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'Iran a appelé à intervenir pour défendre les femmes palestiniennes, victimes des atrocités israéliennes à Gaza. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a publié un appel sur son compte de réseau social X dimanche soir, alors que le régime israélien a cru sa barbarie contre les femmes et les enfants palestiniens. Il a déclaré que cet événement international rappelle l'extrême violence israélienne dont font l'objet les femmes et les filles palestiniennes depuis des décennies. Le diplomate iranien Ismail Barahi a décrit la violence sans précédent exercée sur les femmes palestiniennes à Gaza, où des dizaines de milliers de femmes et de filles ont été brutalement tuées et mutilées. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les femmes et les enfants représentent près de 70% des personnes tuées dans la bande de Gaza lors de la campagne de génocide lancée par Israël dans le territoire palestinien assiégé. le bureau, a publié les chiffres dans un rapport de 32 pages qui couvre les 6 mois de novembre 2023 à avril 2024. Environ 80% des victimes ont été tuées dans des immeubles résidentiels, dont 44% étaient des enfants et 26% des femmes, selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. À la même occasion, un rassemblement a été organisé à Paris samedi pour rendre hommage à toutes les femmes touchées par la guerre. Cet événement a rassemblé des milliers de participants, unis par la volonté de sensibiliser le public aux souffrances endurées par les femmes dans les zones de guerre et de revendiquer des droits fondamentaux pour toutes les femmes à travers le monde. La situation est particulièrement alarmante à Gaza. Cette réalité tragique a été mise en lumière par des groupes de défense des droits de l'homme et diverses ONG qui se sont alliées à des associations pro-palestiniennes pour organiser une manifestation massive. Les participants ont exprimé leur désir de voir les femmes jouir de leur liberté de choix et de vivre en sécurité, indépendamment des conflits qui ravagent leur pays. Les organisateurs de l'événement ont également salué l'annulation par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, de sa visite controversée à Paris, où il devait assister à un gala destiné à lever des fonds pour Israël et son armée. Ce gala, qui s'est tenu dans un pavillon de la célèbre pâtisserie La Durée, a suscité de vives critiques. En conséquence, La Durée figure désormais sur la liste des entreprises que les ONG ainsi que le public a boycottées en raison de ses liens avec Israël, accusées de génocide et de crimes contre l'humanité à Gaza et au Liban.
À toutes et à tous, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Alors, j'ai l'immense plaisir d'animer le débat d'aujourd'hui avec une nouvelle très importante qui est devenue la une des journaux, des médias internationaux. Netanyahou vanted et le premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. C'est un soulagement qualifié par les commentateurs. 120 pays ont salué la décision. Pourquoi cette décision est importante et pourquoi cette décision est un tournant historique? On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts. Avant de les saluer, je vous propose un point en images. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après.
La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis ce jeudi 21 novembre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre des Affaires militaires Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans la bande de Gaza, a annoncé la CPI jeudi. La Chambre a émis des mandats d'arrêt contre deux individus, M. Benjamin Netanyahou et M. Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024, au moins jour où l'accusation a déposé les demandes de mandat d'arrêt, a déclaré dans un communiqué la CPI qui siège à La Haye. La CPI dit avoir des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahou et M. Gallant portent la responsabilité pénale des crimes suivants. Le crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode de guerre. Crimes contre l'humanité, parmi lesquels des meurtres, persécutions et autres actes inhumains et la perpétration d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile. les recours déposés par Israël rejetant la compétence de la CPI ont été rejetés. Depuis début octobre 2023, Israël mène une agression barbare qui a fait au moins 43 985 morts dans la bande Gaza et 3 558 autres au Liban jusqu'à présent. Les attaques meurtrières d'Israël ont déplacé presque toute la population de Gaza et plus d'un cinquième des habitants du Liban.
Voilà, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien et son ministre de la guerre, Gallant, sont devenus criminels de guerre. Officiellement, ils ne peuvent plus mettre le pied dans d'autres pays selon un verdict émis par la Cour pénale internationale, CPI. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Essar Midani, intellectuelle et analyste politique, connaisseur des questions moyen-orientales. Ravie de vous retrouver, Essar, qui est avec nous depuis la France. Bonjour.
Oui, bonjour Zahra, merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe.
Merci. Notre deuxième invité, il s'agit de Maître Arnaud Deblay. Heureuse de vous retrouver, Maître Deblay. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, merci à vous. Bonjour à toute l'équipe, Sœur et à Dr Midani, bien sûr.
Madame, Monsieur Deblay.
Madame Midani, si vous me le permettez, on va lancer le débat et entrer tout de suite dans le vif du sujet avec Maître Deblay, juriste international, spécialiste des questions stratégiques et journaliste également. Maître Deblay, dites-nous s'il vous plaît, sans tarder, pourquoi cette décision est importante et un tournant historique ?
Écoutez, c'est un tournant historique pour la simple et bonne raison que ce pays était en perte de vitesse depuis quelques années déjà, avec cette perception qu'elle n'était simplement qu'un instrument dans les mains des pays occidentaux, ce qui est une impression qui n'a pas encore complètement disparu, mais qui en tout cas remet de manière dramatique, rebat les cartes, hein, dans le sens où on avait l'impression que c'était surtout les ennemis de l'Occident qui étaient visés. Et on s'aperçoit que malgré les menaces, les pressions incessantes exercées à l'encontre du procureur M. Karim Khan, on rappellera qu'il y a une affaire actuellement portant une affaire de mœurs, portant sur M. Khan, qui ce dernier ne s'est pas laissé décontenancer, au contraire, et qui a tenu bon et donc. Ce faisant, la chambre préliminaire de la CPI a rendu sa décision et a confirmé l'émission des mandats d'arrêt.
Merci. À vous, on va aller plus loin avec vous, Essar Midani. Alors, nombreux pays ont salué cette décision. La France a réagi, mais d'une manière, en fait, pas assurée et réticente. Quant aux États-Unis, grand allié d'Israël, les États-Unis ont dénoncé la décision sans surprise. Alors, je rappelle que Israël et les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Alors, comment réagissez-vous à cette décision, s'il vous plaît ?
D'abord, je salue cette décision qui devait venir il y a longtemps, d'ailleurs, parce que déjà depuis le 7 octobre et depuis le début des génocides, il y a eu des injonctions de la Cour internationale de justice. Il y a eu aussi des débuts, en fait, au niveau de la Cour pénale internationale, une volonté de condamner et d'arrêter Netanyahou. Ils ont subi des pressions absolument incroyables, traités d'antisémites, traînés dans la boue par à la fois Israël et les États-Unis, qui n'y sont pas membres, mais d'un autre côté, ils sont tous les deux impliqués de manière très claire dans ce génocide. Et donc, moi, je voudrais saluer encore une fois la Cour, la CPI, en fait, et puis notamment le juge Karim Khan, qui a résisté à toutes ces menaces, à toutes ces courageusement d'ailleurs, à toutes ces menaces et à toutes ces insultes, hein, proférées par les États-Unis et les Israël d'ailleurs, et puis les responsables israéliens, mais aussi les responsables des pays qui soutiennent Israël. Alors en fait, effectivement, 120 pays ont salué cette décision courageuse et qui est très bien. Je voudrais dire, c'est la première fois que Israël, qui a commis au cours de 100 ans des génocides, c'est la première fois qu'ils sont touchés par une décision et qu'ils sont mis en avant comme étant des génocidaires et comme étant des crimes contre l'humanité, alors qu'ils en commettent depuis au moins 100 ans. Donc ça, c'est une victoire pour les peuples, une victoire pour la justice, une victoire aussi pour les instances internationales qui, pour cette instance, en fait, qui jusqu'à présent n'a condamné que des dirigeants des pays du tiers-monde et jamais un dirigeant occidental qui, d'ailleurs, d'habitude, commet toujours des crimes contre les peuples qu'il domine. Alors, la réaction de la France est une réaction timorée, parce que la France soutient cet État fantoche. Elle lui fournit des armes. Macron s'est fait déjà remarquer à plusieurs reprises, en allant à Tel Aviv et en soutenant Netanyahou lui-même. Donc, cette décision va sans doute les toucher par ricochet. Et en plus du fait qu'il y a quand même un nombre important d'avocats qui portent plainte contre les pays qui soutiennent Israël, notamment contre l'Allemagne, devant la Cour internationale de justice et devant justement. Donc en fait, c'est vrai que ce n'est pas la même cour, mais en fait, les exactions commises intéressent effectivement les deux cours. Et puis, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'un pour aller dans l'autre. Et bien que les dynamiques ne sont pas les mêmes, mais tout ce que j'espère aujourd'hui, en plus de voir saluer tous ces personnes qui sont des combattants de la vérité, je peux dire, je voudrais quand même saluer tous les peuples et la résistance du peuple palestinien qui a fait que c'est devenu évident, d'une part, cette condamnation, et puis d'autre part, le fait qu'il n'ait jamais cédé aux exactions, qu'il n'ait jamais cédé non plus, qu'ils se sont battus et qu'ils sont toujours fait parvenir les preuves et les dossiers, etc., aux différentes cours pour faire condamner Israël, parce que là, c'est un travail très, très important et qui est à faire et qui a été fait par les résistants palestiniens et par la résistance palestinienne dans toutes ces organisations. Donc, je voudrais les saluer. Je voudrais aussi saluer tous les pays qui soutiennent la Palestine, qui soutiennent, qui ont aussi voté pour que la Palestine devienne membre à part entière à l'ONU, malgré les vétos répétés des Américains. Mais en fait, ces pays persistent et signent et continuent à soutenir la Palestine, qui continue à soutenir les Palestiniens dans leur lutte pour la liberté et pour la libération de leur pays.
Merci Aïssar. Mertoblé, alors, crime de guerre, crime contre l'humanité. En tant que juriste, vous pouvez nous développer un petit peu la définition de ces crimes perpétrés par Benjamin Netanyahou et son ministre de la guerre, Gallant.
Oui, les crimes de guerre, essentiellement, ce sont des opérations militaires sont effectués et exercés à l'encontre de cibles non militaires, qui visent donc essentiellement les civils, Le crime contre l'humanité, qu'il faut garder à l'esprit, c'est cette composante, cet élément du crime qui porte à souligner la mise en œuvre de mesures portant à atteindre l'intégrité physique d'un groupe en partie ou dans sa totalité. Et là, on peut penser effectivement l'impossibilité pour les convois humanitaires d'accéder à ceux qui en ont le plus besoin. On peut penser à l'attaque des hôpitaux. On peut penser donc à la famine qui est générée de manière artificielle pour pouvoir atteindre, si je puis dire, les civils palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza dans des proportions absolument atroces. On pense bien sûr à tous ceux qui sont encore à ce jour en ce pays sous les décombres, qui n'ont même pas pu bénéficier d'une sépulture digne. On pense à toutes les conditions qui portent sur l'absence d'hygiène, ce qui entraîne des maladies comme le choléra, la diphtérie, que sais-je encore, qui aggrave le taux de mortalité. Donc tous ces éléments ont été probablement pris en compte de façon à caractériser les crimes contre l'humanité.
Oui, c'est vrai qu'alors Netanyahou n'a lésiné sur rien pour pousser les Palestiniens de la bande de Gaza à une situation désastreuse et à l'anéantissement. Alors, à titre d'exemple, on peut citer la guerre de famine, affamer les Palestiniens de la bande de Gaza. Dites-nous, s'il vous plaît, comment réagissez-vous à ces réactions du monde entier? Qu'est-ce que cela montre, les réactions tout de suite après l'annonce de ce verdict?
Alors, si on met de côté les pays d'orfraie qui émanent de Washington et de Tel Aviv, avec quelque part des argumentaires qui ne tiennent pas la route, enfin, on va passer sur les noms d'oiseaux, mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est en fait, somme toute, la rapidité relative avec laquelle beaucoup de capitales européennes, qui sont eux-mêmes signataires du traité de Rome, et ça a été cristallisé par la déclaration de Joseph Borrell, hein, qui est quand même monsieur relations étrangères au niveau de l'Europe, qui a enjoint donc tous les membres de l'Union européenne et par contre là tous les États signataires de procéder à l'arrestation des prévenus pour peu que ces derniers posent le pied sur leur territoire. Et on commence à avoir un flot régulier de déclarations de ces pays qui s'engagent à faire exactement ça. Et ça va même jusqu'au Canada, hein, puisque le Canada a annoncé hier, la République d'Irlande, les Pays-Bas, dont le ministre des Affaires étrangères était d'ailleurs supposé visiter l'entité sioniste, mais il vient d'apprendre que cette visite a été annulée. L'Italie a aussi annoncé qu'elle procéderait à l'arrestation des prévenus. Quelque part, c'est un pied de nez, mais c'est le maire de Dearborn, Michigan aussi, lui-même, qui a annoncé que dans l'éventualité, certainement pas très haute, mais l'un des deux prévenus poserait le pied en état du Michigan ou dans la ville de Dearborn, il serait interpellé, malgré la position de la Maison Blanche. Donc, il y aura un avant et un après, il ne faut pas se voiler la face. C'est une décision qui fera jurisprudence, qui brise vraiment un tabou quelque part.
Exactement.
Et qui donnera du courage à toutes les instances pénales et judiciaires dans la poursuite des actions en droit international pénal, qu'elles soient produites où que ce soit dans le monde et quels que soient ceux qui les perpétuent.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que traiter le procès et les crimes perpétrés par Israël prendra peut-être plus de 5 décennies, 50 ans, tellement sont graves et sont multiples et sont atroces les crimes menés par le régime d'occupation. Oui, exactement. À vous, cher Aïssar, alors, cette décision a ravivé les espoirs dans le monde entier, à l'échelle internationale. On voit que finalement la justice est en train d'être rétablie.
En fait, oui, elle redonne des espoirs alors qu'on était complètement désespérés et en fait la confiance n'existait plus dans toutes ces instances internationales parce que bel et bien on pensait qu'elles étaient dominées par les États-Unis et par le sionisme. Bon, maintenant, effectivement, ça redonne une note d'espoir et une note de confiance à nouveau dans ces instances. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elles soient déjà appliquées, d'une part, et que d'autre part, d'autres instances puissent suivre. Parce qu'on a vu quand même que Israël avait interdit à la commission d'enquête de l'ONU de pénétrer dans Gaza. Ils ont interdit aussi à la commission d'enquête de la Cour internationale de justice de rentrer dans Gaza. Ils s'interdisent quand même tous les vivres et tout ce qui est de les vivres, les aides humanitaires, etc., de rentrer dans Gaza, alors qu'ils continuent à bombarder et qu'ils affament et que ils font tous les crimes interdits, je dirais, tout ce qui est interdit par les lois internationales. Et on a bien vu que Netanyahou ne respectait rien et pour lui, la loi internationale n'existe pas. Alors, il est important de voir maintenant qu'elle existe et surtout qu'elle s'applique. Maintenant, il est important, tous les regards s'orientent vers l'application de cette loi et l'arrestation de Netanyahou et l'arrestation de Gallant, mais aussi de tous ceux qui sont impliqués avec eux, en fait, aussi bien dans le même gouvernement, d'une part, mais aussi tous les pays qui les soutiennent, parce qu'il faut savoir quand même que le soutien américain continue de plus belle et que des bombes de plus en plus lourdes sont fournies à Israël pour commettre en une seule seconde des crimes contre des milliers de personnes ou des centaines de personnes en une seconde. Donc ça équivaut tout à fait à la bombe nucléaire, je dirais, pour laquelle les États-Unis n'ont jamais été sanctionnés aussi. Et c'est un grand crime contre l'humanité aussi. Et ça fait 50 ans et ils n'ont jamais été sanctionnés. Donc en fait, c'est important de continuer ce chemin, de pousser aussi et de continuer à soutenir la Cour pénale internationale, de continuer à soutenir les pays qui soutiennent cette cour et qui soutiennent la Palestine et qui soutiennent la liberté dans le monde pour que ce dossier et ces crimes de Netanyahou soient traités rapidement et qu'ils soient arrêtés et condamnés très rapidement, lui et Gallant, de toute manière. Un autre point et qu'il est important de voir, c'est que cette même cour a condamné Mohamed Adrif, qui est quand même le responsable de Hamas, soi-disant pour avoir aussi organisé des crimes contre l'humanité le 7 octobre. Et là, franchement, c'est quelque chose d'absolument abject.
Merci. Hein,
parce qu'un peuple qui se défend, il n'est pas en train de commettre des crimes.
Merci.
Il se défend, il défend sa liberté et son indépendance.
Tout à fait. Merci, Aïssar. Alors, Maître Dolé, je vous laisse réagir et conclure. Nous avons 2 minutes devant nous.
Oui, alors certainement, ça va certainement prendre du temps, voir peut-être que ces fugitifs pourront quelque part dans leur vie, sans avoir quitté leur pays, ou alors une fois de temps en temps, pour aller à Washington recevoir des ovations par le Congrès. Mais sous haute garde et avec la stigmate, il les poursuivra à jamais, c'est-à-dire que personne n'est au-delà des droits, personne ne doit avoir l'impunité pour leurs crimes, et c'est surtout ce stigmate-là qui va les poursuivre, indépendamment de leur interpellation. Ils sont maintenant marqués du sceau de l'infamie et c'est maintenant officiel. C'est des papiers, des documents officiels rendus par une institution qui regroupe 124 pays et qui est une émanation directe, une cristallisation de centaines d'années de droit international public et je dirais plus précisément de plusieurs décennies de développement du droit coutumier international. Donc c'est quelque chose qui a une grande importance et qui a une valeur juridique qui fera que beaucoup de gens maintenant vont commencer à transpirer. Et je rejoins en cela Dr. Midani quand elle dit que beaucoup des gens qui se sont rendus complices durant leur temps aux responsabilités de leur pays respectif en fournissant les moyens qui ont rendu ces crimes contre l'humanité et ces crimes de guerre possibles seront peut-être eux-mêmes, on peut l'espérer, amenés à rendre des comptes.
Arnaud Doblé, ouais. Juriste international, merci infiniment. Merci. Aïssar, notre débat prend sa fin. Alors, merci infiniment également à vous, Aïssar Midani, d'avoir répondu présent pour ce débat. Merci infiniment de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.
L'artisanat persan. La civilisation millénaire persane nous a légué un héritage culturel et artistique riche dans sa diversité et dans sa rareté, et qui constitue aujourd'hui l'identité régionale et historique des habitants de cette vaste contrée orientale. Une partie essentielle de ce legs culturel, aujourd'hui protégé des ravages du temps par sa perpétuation, est constituée par l'art ou plutôt par l'artisanat iranien. L'artisanat doit aujourd'hui son importance à son rôle dans la sauvegarde des pratiques artistiques autochtones et à la sauvegarde de la culture des peuples indigènes, peu modifiée par rapport à l'évolution rapide de la vie urbaine. Il incarne aussi le goût et la finesse artistique, en l'occurrence iranienne, grâce à son caractère manuel et à la délicatesse des réalisations auxquelles il donne lieu. Le mot tazhib vient du mot arabe dahab qui signifie enduire d'or, doré ou orné d'or des livres, calligraphies, marges des miniatures et en particulier les marges des sourates et des versets coraniques. Cet art s'est développé durant les premiers temps de l'ère islamique lorsque, accompagnant un désir de diffuser largement des exemplaires du Coran, les artistes et calligraphes se sont employés à décorer ces pages calligraphiées de miniatures ou d'ornements, à la fois colorés et dorés. Aujourd'hui, l'enluminure est considérée comme un art iranien. Étant donné que les artistes persans ont joué un rôle considérable dans le développement de cet art. L'histoire du tazhib et ses évolutions au cours des siècles. La peinture traditionnelle iranienne est un art très ancien dont on peut retrouver les traces dans les cavernes et les rochers de Douché, Hamyané et Mirmalis, situés dans le Lorestan, dont les dessins remontent à des millénaires avant la naissance de Jésus-Christ. Mais c'est certainement à l'époque sassanide et dans les œuvres de Mani, peintre enlumineur très célèbre de cette époque, que la peinture iranienne devint un art bien défini, selon des critères précis. Les arts figuratifs des manichéens comprenaient la peinture, la fresque, la peinture sur le cuir et la soie, la calligraphie et l'enluminure des livres de miniatures. On a retrouvé une partie des œuvres de Mani dans la ville chinoise de Turfan. Les œuvres découvertes à Turfan confirment le fait qu'il faut considérer l'Iran comme étant le pays d'origine de l'enluminure, bien que certains chercheurs situent ses origines en Égypte, en Chine, au Japon ou dans quelques autres pays orientaux. Ce qui, au vu des documents historiques dont nous disposons, ne peut pas être vrai. Après l'apparition de cet art en Iran, il se diffusa dans d'autres pays, si bien que les chrétiens utilisaient également cet art pour orner les livres religieux, ainsi que d'autres livres de valeur. Durant les premiers siècles après l'apparition de l'islam, le tasib consistait en de simples dessins géométriques que l'on réalisait normalement aux premières et aux dernières pages du Coran. En tête des sourates, on dessinait souvent de simples figures décoratives qui consistaient en un torrange autour du titre des sourates. Le titre et le nombre de versets de chaque sourate étaient inscrits en lettres dorées, tandis que la vocalisation Erop s'effectuait avec la couleur de cinabre. Avec l'apparition des Safarides et des Samanides, dynastie ayant régné après l'apparition de l'islam en Iran, les beaux-arts connurent un renouveau et l'attention portée à la peinture, le tasib et le tachir contribua au développement de ces arts. Les plus beaux Corans enluminés furent réalisés entre le 4e et le 6e siècle de l'ère lunaire, 10e et 12e siècle de l'ère chrétienne. Parmi les œuvres les plus remarquables de l'époque seldjoukite, on peut mentionner un Coran qui fait partie des plus anciens manuscrits enluminés. Actuellement, ce Coran, calligraphié par Mohammad ibn Isa ibn Ali Nishaburi, est considéré comme un trésor de l'art islamique. Le tasib continua à se développer pendant l'époque seldjoukite. Au 7e et 8e siècle, en particulier à l'époque timouride, cet art ainsi que la calligraphie et la miniature connurent une importante diffusion et servaient avant tout à l'illustration des livres. Jusqu'à la fin de l'époque safavide, ces techniques s'affinèrent davantage jusqu'à ce qu'il devint un art décoratif à part entière. Des experts considèrent la création de l'école de Herat comme la raison principale de la prospérité et de la splendeur des arts de la calligraphie, du tasib et de la miniature, durant l'époque timouride, du 10e au 11e siècle de l'égir lunaire. L'école de Herat fut fondée durant cette période par Baysan Rolmizda, lui-même calligraphe et enlumineur, ainsi que quelques autres grands artistes tels que Kamal Eddin Behzad. À l'époque safavide, la taille des enluminures ainsi que leur forme eurent tendance à diminuer. On utilisa désormais le doré, le noir et le bleu comme couleurs du fond principal du dessin. Le blanc et le jaune furent également utilisés de façon croissante. À cette époque, étant donné l'importance accordée à la calligraphie et au tasib du Coran, Isparan devint le foyer principal de ces arts, donnant ainsi naissance à l'époque d'Isparan. À l'époque afcharite, l'art de tasib ne se développa pas beaucoup du fait de la situation politique et des conditions particulières qui régnaient à l'époque. Cependant, avec l'avènement de la dynastie Zand et du fait de l'évolution de la tuilerie de l'architecture, le tasib connut un certain renouveau, marqué notamment par la présence croissante du blanc et du jaune comme couleur de fond principal. L'époque Rajar fut une période pauvre dans le domaine des beaux-arts, marquée avant tout par des imitations incorrectes d'œuvres occidentales. On peut classer les œuvres de cette période en deux catégories. Celles qui imitent le style occidental, celles réalisées selon un style traditionnel. En somme, au IVe siècle de l'Égir lunaire, le tasib en Iran était simple et sans ornement. Au Ve et au VIe siècle, cohérent. Au VIIIe siècle, somptueux. Et au IXe et Xe siècle, luxueux, délicat et riche. On peut situer l'apogée du tasib au Xe et au XIe siècle, lorsque les motifs eslimi et khataï furent introduits jusqu'au XIVe siècle de l'Égire lunaire.
Thank you.